بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 23 dans l'explication du livre de l'explication du Kitab al-Tawhid du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala dans son livre al-Ta'liq al-Mukhtasar al-Mubin ala قرة عيون الموحدين. Donc on était rendu à la parole maintenant de l'explication ou la citation plutôt de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan qui a cité la citation de l'imam Muhyiddin al-Nawawi. L'imam al-Nawawi, il dit وقال Muhyiddin al-Nawawi رحمه الله اعلم أن باب الأمر بالمعروف اعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع من زمان متطاولة ولم يبق في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه وإذا كثر الخبث عم العقاب Donc l'imam al-Nawawi, il dit sache que la question de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal a été délaissée depuis très longtemps, et dans ces temps-ci il ne reste que des symboles, très peu de symboles de ce grand sujet ou de cette grande question qui en fait est le fondement ou qu'est-ce qui retient un des piliers de l'ordre de l'islam. Et il dit que lorsque le mal se répand et devient propagé, eh bien le châtiment devient généralisé aussi. C'est-à-dire quand il y a beaucoup de mauvaises choses dans la société et que le mal s'est propagé, le châtiment d'Allah devient général. Ça veut dire que le châtiment d'Allah va toucher les pieux et les mauvais comme les pieux, sans distinction. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit لأنهم ينكرون على من دعاهم إلى إفراد العبادة. Ah non, c'est l'autre passage. Il dit وقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. فالمعصية إذا لم تنكر ونزلت العقوبة فإنها تعم الصالح والطالح والطالح لأنه فعل المعصية والصالح لأنه لم ينكر فاستحق العقوبة. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فإذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده حتى الذين لم يفعلوا المعاصي يقع عليهم العذاب لأنهم لم ينكروا ولم يغاروا لله عز وجل. أما الذين ينكرون فإن الله ينجيهم بسبب إنكارهم. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la même manière qu'il a dit à Zainab radiallahu anha, une de ses épouses, lorsqu'elle a dit oh messager d'Allah, est-ce que nous allons périr alors qu'il y a parmi nous des gens pieux, est-ce qu'on va périr alors que parmi nous il y a des gens pieux? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant oui, si le mal est devenu trop grand, s'il y a trop de mal dans la société. Et le cheikh dit ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. hein, Al-Bukhari et Muslim. Donc, le péché, s'il n'y a personne pour le condamner, et s'il n'y a personne pour hein, le dénoncer, eh bien, le châtiment d'Allah descend sur la, hein, sur la communauté de façon générale. Et le châtiment touche tout le monde, le pieux et le pécheur. Le pécheur parce qu'il a fait le péché, et le pieux parce qu'il n'a pas condamné. Alors, parce qu'il n'a pas condamné le péché, eh bien, il mérite lui aussi le châtiment. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 25 dans Sourate Al-Anfal, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعِقَابِ. Et protégez-vous ou préservez-vous d'une épreuve, hein, d'une fitna ou d'un châtiment qui ne touchera pas uniquement les injustes parmi vous en particulier. Et sachez que Allah est dur en châtiment. Ensuite, le cheikh il explique et il dit, et donc lorsque les gens ont délaissé le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, eh bien ils risquent par cela que Allah subhanahu wa ta'ala les châtie de façon générale et que son châtiment tombe sur eux tous de manière générale, même ceux qui n'ont pas commis de péché eux-mêmes, hein, ils vont eux aussi goûter au châtiment parce qu'ils n'ont pas condamné le mal qui était fait et ils n'ont pas été jaloux par rapport à ce qui contredit la religion d'Allah. Tandis que ceux qui condamnent et qui ont condamné le mal et qui ont parlé contre le mal pour l'interdire, Allah subhanahu wa ta'ala les sauve du châtiment à cause de leur condamnation du mal et leur contestation contre le mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement dans le verset 165 dans sourate Al-A'raf, il cite justement un exemple de ça. Il dit, puis lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur avait rappelé, nous sauvâmes ceux qui leur avaient interdit le mal et saisîmes par un châtiment rigoureux les injustes pour leurs actes pervers. Donc les justes, hein, ceux qui ordonnaient le bien et qui interdisaient le mal, Allah les a sauvés. Ensuite, le cheikh il continue l'explication, ou bien il explique plutôt la parole de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il explique la parole de l'imam al-Nawawi, ou bien plutôt il fait un commentaire au sujet de certains passages dans la citation qu'il a rapportée à propos de l'imam al-Nawawi. Il dit « وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ يَعْنِي الْقَرْنَ الْخَامِسُ وَالسَّادِسِ. » Donc quand l'imam al-Nawawi il dit que à son époque, hein, dans leur époque, l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal a été délaissée depuis longtemps, il parle du 5e ou 6e siècle de la Hijra, hein. Donc ça fait bien longtemps avant. Et le cheikh il dit donc qawluhu fi hadhihi al-azman yani fi al-qarn al-khamis wa al-sadis. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَا الظَّنُّ بِالْقَرْنِ الْعَاشِرِ وَمَا بَعْدَهُ وَقَدْ اسْتَحْكَمَتْ فِيهَا الْغُرْبَةُ وَلِشَيْخِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُ الْوَهَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ كَلَامٌ حَسَنٌ بَدِيعٌ وَاضِحٌ لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى مِثْلِهِ فَلْيُرَاجَعْ لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ. Donc, le cheikh, il explique ici, il dit, si c'est ainsi, alors que dire? Donc, si c'est ainsi, c'est-à-dire que l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal a été oubliée ou délaissée, hein, ou perdue depuis longtemps, et ça c'était à l'époque de l'imam al-Nawawi, c'est-à-dire le 5e et le 6e siècle, alors que penser dans ce cas-là du 10e siècle? Hein, et les siècles qui viennent après, hein, dans lesquels l'étrangeté ont pris le dessus. Et l'étrangeté, on parle de al-ghurba, c'est-à-dire le fait d'être étrange dans une société parce que on est une minorité de gens parmi beaucoup de gens qui sont éloignés de la sunna, éloignés de l'islam. Donc al-ghurba, le musulman qui est sur la sunna et qui s'accroche à la voix des salafs, il la ressent tout le temps. Et donc, comme les ulama l'ont expliqué, si tu es dans un pays musulman, tu t'accroches à la sunna, tu te sens étranger par rapport à ceux qui sont éloignés de la sunna. Et si tu es dans un pays non musulman, c'est encore plus grand, parce que déjà tu es une minorité parmi les musulmans, puisque tu es une minorité, parce que tu es dans une minorité déjà en tant que musulman dans un pays non musulman. Puis dans la communauté des musulmans, parmi eux, tu es une minorité parmi eux, parce que tu fais partie de ceux qui s'accrochent à la sunna. Donc tu es une minorité dans une minorité dans une minorité. Et ça, c'est un exemple de al-ghurba, ceux qui à notre époque continuent ou veulent continuer à s'accrocher à l'islam et à la sunna et aux principes de la religion. Ils sont vus aujourd'hui comme des gens étrangers, comme des gens bizarres. On les regarde comme des extraterrestres, comme si c'était des gens qui viennent d'une autre planète. Et donc c'est triste, mais c'est la réalité. Donc le cheikh, il explique ça. Et il dit, et notre cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, il a une explication de ce terme, al-ghurba, qui est très bonne et qui est claire et intéressante. Et il dit que cette explication qu'il a mentionnée, elle n'a pas eu de précédent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres savants qui l'ont expliqué aussi bien, aussi clairement que ça avant lui. Donc il dit, revenez à cette explication-là à cause du grand besoin qu'il y a de le comprendre. Et on va lire maintenant les commentaires de Cheikh Al-Fawzan à propos de ces points-là qu'on vient d'expliquer. Premièrement, à propos de la citation au sujet de l'ordonnance du bien et du fait que l'imam al-Nawawi, il parle de son époque à lui. Et il dit que ça fait longtemps que l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal a été délaissée. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit « Huwa asrul imam al-Nawawi », c'est-à-dire à l'époque de l'imam al-Nawawi. Et c'était le 5e et le 6e siècle. Donc si c'était le cas, comme il dit ensuite, il dit « Wa huwa al-qarnu al-khamisa ashar ba'dahu » yani, « Fama dhannu bil-qarn al-ashir wa ma ba'dahu » يعني والقرن الخامس عشر وما بعده لأنه كلما تأخر الزمان يكثر الخبث والشر ويقبض العلم ويبقى الجهل ويحصل الخطر العظيم في آخر الزمان وتشتد غربة الدين في آخر الزمان. Donc Cheikh Al-Fawzan dit, le Cheikh Abd al-Rahman ibn Hassan, il dit, si c'était le cas de ce que l'imam al-Nawawi a dit à son époque, au 5e et au 6e siècle, alors que dire au 10e siècle? Parce que le Cheikh Abd al-Rahman ibn Hassan, il vivait au 10e siècle. Et Cheikh Al-Fawzan, lui, il dit, et que dire au 15e siècle? Et après, il dit, plus on s'éloigne de la période du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et plus le mal devient généralisé et augmente. Et la science, les hommes de science meurent et il reste l'ignorance. Et à cause de ça, il y a un grand danger qui arrive vers la fin des temps. Et les gens qui s'accrochent à la religion et qui sont pratiquants de l'islam et de la sunna, eh bien, ils ressentent encore plus l'état d'être étranger et d'être étrange vers la fin des temps. Ensuite, il commente sur le point que on vit à une époque, comme il parle du 10e siècle, il dit qu'on sent l'étrangeté, c'est-à-dire que quand on s'accroche à l'islam, à cette époque-là, on se sent comme un étranger. Et il dit, le cheikh, « استحكمت الغربة حتى اعتقدوا أن الشرك هو التوحيد والتوحيد هو الشرك والكفر وهل بعد هذه الغربة غربة وهذا هو قول الأولين أجعل الآلهة إلها واحدة وما الفرق بينهم. Donc le cheikh il dit que l'étrangeté c'est devenu la règle, hein? Elle s'est propagée partout et elle a pris le dessus, c'est elle qui règne, hein? Les gens sont devenus étrangers par rapport à leur religion, à leur propre religion, et par rapport aux autres musulmans. Lorsqu'ils s'accrochent à l'islam, on les voit comme des étrangers, et à un point tel que les gens sont arrivés à penser que le shirk c'est le tawhid et que le tawhid c'est le shirk et le kufr. Donc ça veut dire qu'ils ont inversé la religion complètement, ils ont renversé l'essence de la religion. Il dit, est-ce qu'il y a après cette étrangeté une étrangeté plus grande, hein? Et ça c'est la même parole que la parole des premiers parmi les mushrikin, comme Allah subhanahu wa ta'ala les a cités dans le verset 5 dans surat Sad, lorsqu'ils disent, est-ce qu'il a fait de toutes nos divinités une divinité unique? Et il dit donc, le cheikh Al-Fawzan, il dit donc, quelle est la différence entre eux, hein, et les premiers mushrikin qui disaient cette parole-là? Ensuite, il dit le cheikh, à propos de l'explication du cheikh Abdurrahman ibn Hassan, quand il parle de la parole de l'explication du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab au sujet de la parole de Al-Ghurba. Et cheikh Al-Fawzan, il dit là-dessus, هذه رسالة مستقلة موجودة في مجموعة التوحيد بعنوان تفسير التوحيد وهي رسالة جيدة مختصرة. Donc il dit au sujet de l'étrangeté et de ce que le cheikh Abdurrahman ibn Hassan mentionne ici, il s'agit de la risala ou du livre que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a écrit dans le recueil des livres sur le tawhid qui s'intitule Tafsir al-Tawhid, c'est-à-dire l'explication du Tawhid, et c'est un livre qui est très bénéfique et qui est résumé. Ensuite, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَأْكِيدٌ لِمَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ وَوُضِعَتْ لَهُ مِنْ بَابِ اللَّفْ والنشر المقدم والمؤخر. OK, donc ici le cheikh il explique que à propos du hadith, quand il parle du hadith ici, il parle, parce qu'on est toujours dans le chapitre bab fadl at-tawhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub, d'accord, et on a expliqué jusqu'à date le hadith de Ubadat ibn Samit, dans lequel il y a l'explication, quiconque témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, hein, lui seul, et il n'a pas de partenaire, wahdahu la sharika lah. Donc là il est rendu à expliquer cette partie du hadith, wahdahu la sharika lah. Donc quand on dit wahdahu la sharika lah, wahdahu, c'est-à-dire lui seul, la sharika lah, c'est-à-dire il n'a pas de partenaire, il n'a pas d'associé. Et ça, c'est pour confirmer le sens de la ilaha illallah. Donc on dit souvent cette parole-là, vous l'entendez souvent dans les hadiths, hein, et dans les du'as, hein, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Hein? Donc wahdahu la sharika lah, c'est confirmation de la ilaha illallah. Ça veut dire lui seul, sans associé, sans partenaire. Parce que la ilaha illallah, ça déjà ça signifie ça. Ça signifie que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, lui seul, sans partenaire, sans associé. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport à ça, il dit, donc Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il a dit, Alladhi dallat alayhi. يعني تأكيد لمعنى لا إله إلا الله الذي دلت عليه. الشيخ الفوزان الذي وحده هذا تأكيد للإثبات إلا الله, هذا الإثبات, ولا شريك له يعني هذا تأكيد للنفي, وقد أتى مقدما ومؤخرا من باب اللف والنشر غير المرتب عند البلاغيين فكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده تأكيد لآخر الكلمة إلا الله ولا شريك له تأكيد لأولها لا إله فهو بدأ بتأكيد آخر الكلمة قبل أولها. Donc c'est ça que le cheikh explique, il dit donc que c'est une confirmation de la signification de la ilaha illallah, et il dit que wahdahu c'est l'affirmation de la ilaha qui est l'affirmation dans la phrase, et la sharikalah c'est la confirmation de la négation dans la ilaha illallah, c'est-à-dire la ilaha, et la ilaha c'est le début et illallah c'est la fin dans le témoignage la ilaha illallah, sauf que dans wahdahu la sharika lah il est inversé, dans le sens que wahdahu est une affirmation de la dernière partie, hein, de la négation. C'est la dernière partie, c'est l'affirmation, donc c'est une confirmation de la dernière partie de la ilaha illallah, c'est-à-dire illallah qui est l'affirmation. Et la sharika lah, c'est la confirmation de la négation qui est la première partie dans le témoignage. Quand on dit la ilaha, c'est la première partie et c'est la négation. Donc, la confirmation est inversée par rapport au témoignage. Et il dit, le cheikh, que ça c'est qu'est-ce qu'on appelle, al-laf wa al-nashr. النف والنشر المقدم والمؤخر. Et à propos de ça, le cheikh il dit النف والنشر غير المرتب مثل قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم بدأ بالشق الأخير فهو من باب النف والنشر غير المرتب والمرتب أن يبدأ بالذين ابيضت وجوههم وهذا أسلوب عربي بليغ يأتي في القرآن الكريم. Donc l'exemple de al-laf wa al-nashr غير المرتب, c'est-à-dire quand Allah subhanahu wa ta'ala dans l'exemple dans le Coran qu'il a mentionné, le Cheikh, le verset 106 dans sourate Al-Imran, c'est qu'il mentionne le jour où des visages seront éclaircis, hein, et d'autres visages seront assombris. Puis, quand il explique chacun des deux cas, il commence par les visages qui seront assombris. Alors que dans le début du verset, c'est les visages éclaircis qui sont mentionnés en premier. Et ça, c'est un exemple de qu'est-ce qu'il explique le cheikh en disant que Allah subhanahu wa ta'ala, ici dans ce verset, il explique la dernière partie en premier. Puis après, il explique la première exemple. Et donc ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-laf wa al-nashr. Et c'est un style chez les Arabes, dans la langue arabe, c'est un style qui est utilisé, qui est très éloquent. Et le cheikh, il explique que ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle اللف والنشر الغير المرتب هي c'est quand on commence par la fin puis on termine par le début, et quand on commence par le début puis on termine par la fin, quand c'est dans le même ordre, alors on dit dans ce cas-là c'est اللف والنشر المرتب, ça veut dire c'est dans le même ordre, et quand c'est dans l'ordre inverse on dit اللف والنشر الغير المرتب. Donc après ça, le cheikh il explique un autre point, il dit وَهُوَ بَيَانُ لِحَقِيقَةِ مَعْنَ هَذِهِ الْكَلِيمَةِ لِأَنَّهَا دَلَّتْ بِجُمْلَتِهَا عَلَى التَّوْحِيدِ فَلَا إِلَهَ تَنْفِي الشِّرْكِ فِي الْعِبَادَةِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَبَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ لَا شَرِيكَ لَهِ فِي إِلَهِيَتِهِ وَهِيَ الْعِبَادَةِ وَقَوْلُهُ وَحْدَهُ وهو معنى لا إلا الله وحده هو معنى إلا الله فهو الإله الحق وحده دون كل ما سواه من أهل السماوات والأرض كما دل على ذلك الآيات المحكمات ومتواتر الأحاديث فتدبر هذا البيان فيطلع عليك بطلان قول من يقول بجواز دعوة غير الله والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وغيرها من الآيات التي ذكرها وغيرها من الآيات الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى. Donc on va expliquer jusqu'ici. Le cheikh il dit donc, cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit que ça c'est wahdahu la sharika lah, lui seul sans partenaire, sans associé. C'est une explication de la réalité de la signification de la ilaha illallah. Et il dit que c'est une parole qui, dans son sens général, explique le tawhid. Parce que la ilaha, c'est la négation du shirk dans l'adoration, que ce soit peu ou beaucoup. Et ça, c'est expliqué par la phrase « la sharika lah ». Donc, la ilaha, hein, c'est qu'est-ce qui confirme la négation. « La sharika lah ». Hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas de partenaire dans son adoration. Hein. Et il dit, en ce qui concerne la parole « wahdahu », eh bien, c'est dans le même sens que « illallah ». Hein. « Wahdahu », c'est-à-dire lui seul, c'est dans le sens de « accepter Allah ». Donc, c'est l'affirmation. Hein. Et c'est-à-dire que le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah. Hein. Et c'est lui seul qui le mérite, en dehors de toute chose, en dehors de tout autre qui peut être adoré parmi les habitants des cieux et de la terre. Comme c'est mentionné dans plusieurs versets clairs et explicites, et dans de nombreux hadiths qui sont rapportés par de grands nombres de narrateurs. Si on médite sur cette explication-là, on voit clairement la fausseté de celui qui pense ou qui dit qu'il est permis d'invoquer d'autres que Allah. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète dans le verset 213 dans Surat al-Shu'ara, فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Donc n'invoque pas avec Allah une autre divinité. فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. Car sinon tu seras du nombre des gens qui sont châtiés. Et il dit le Cheikh « وَغَيْرِهَا مِنَ الْآيَاتِ » et d'autres versets également qui vont être mentionnés plus tard. Maintenant, pour lire juste les commentaires de qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan a expliqué par rapport à ces versets-là et à ces points-là, il dit « لَوْ دَعَ الرَّسُولُ sallallahu alayhi wa sallam غَيْرَ اللَّهِ » donc il explique le verset 213 dans surat Al-Shu'ara, yani, n'invoque pas avec Allah une autre divinité, sinon tu seras du nombre des châtiés. Il dit, لو دعا الرسول صلى الله عليه وسلم غير الله وحاشاه لكان من المعذبين. وفي الآية الأخرى, لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لو أشرك لكان من المعذبين وحبط عمله فكيف بغيره؟ قال الله عز وجل في الرسل الآخرين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Donc le cheikh il dit, si Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, n'invoque pas avec Allah une autre divinité, sinon tu serais du nombre des châtiés. Et le cheikh il dit donc, si le messager invoquait autre que Allah sallallahu alayhi wa sallam, si le messager sallallahu alayhi wa sallam invoquait autre que Allah, et il dit hachahu wa hachahu, hein, c'est-à-dire que Allah soit, que le messager soit, yani, c'est-à-dire on dirait jamais une telle chose à propos du messager, que yani, qu'il je ne sais pas comment expliquer hacha, ou ça veut dire, c'est comme, il y en est loin de là, hein, une telle chose. C'est dans ce sens-là. La kana min al-mu'adhabin, il serait du nombre des châtiés. Et dans un autre verset, dans surat Az-Zumar, Allah dit, la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Si tu aurais fait du shirk, il aurait rendu ton œuvre vaine. Donc, si c'est le cas du messager qui aurait commis du shirk, il aurait été du nombre de ceux qui sont châtiés, et ses œuvres auraient été vaines, hein, auraient été vaines. Eh bien, que dire de d'autres que lui, hein, d'autres parmi les prophètes, hein, ou bien d'autres parmi les hommes. Et justement, Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des autres messagers, walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Et s'ils auraient fait de shirk, on aurait annulé tout ce qu'ils auraient fait comme œuvre. Alors que ce soit des messagers, alors que dire des autres qui ne sont pas des messagers, hein? Et à propos du yani de la suite, le cheikh dit wa ghayriha min al-ayat الآتي ذكرها إن شاء الله et d'autres versets également qui vont être mentionnés par la suite إن شاء الله. Et le شيخ il dit شيخ الفوزان وهذا شق الشهادة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وهؤلاء القبوريون يشهدون أن محمدا رسول الله ولكنهم في الحقيقة لا يشهدون أن لا إله إلا الله لأنهم يعبدون غير الله. Donc il dit ça, c'est la première partie du témoignage, le témoignage de la ilaha illallah. Et ça, et ceux-là, parmi les gens qui adorent les tombes, ils témoignent que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, en réalité, ils n'ont pas réellement témoigné de la ilaha illallah parce qu'ils adorent d'autres avec Allah. Hein? Ils adorent d'autres que Allah. Et le cheikh, il dit... ensuite فقوله وحده تأكيد للإثبات وقوله لا شريك له تأكيد للنفي وقوله وأن محمدا عبده ورسوله أي وشهد أن محمدا عبده ورسوله أي بصدق ويقين وذلك يقتضي اتباعه وتعظيم أمره ونهيه ولزوم سنته صلى الله عليه وسلم وأن لا تعارض بقول أحد لأن غيره صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الخطأ والنبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله تعالى وأمرنا بطاعته والتأسي به. Donc le cheikh il dit que donc le wahdahu dans l'expression wahdahu, c'est une confirmation de l'affirmation du témoignage de la ilaha illallah, et la sharika lah, c'est une confirmation de la négation du témoignage illallah, la ilaha. Naam. Donc wahdahu ta'kidun lil ithbat, confirmation de l'affirmation, et la sharika lah, confirmation de la négation. Le cheikh dit ensuite, donc, et ensuite la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith est Muhammad, et que Muhammad est son serviteur et son messager. C'est-à-dire il témoigne, après avoir témoigné de la ilaha illallah, il témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et il témoigne ensuite que Muhammad est son serviteur et son messager. C'est-à-dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il le témoigne de ça avec sincérité, avec véracité, avec conviction. Et cela implique qu'il doit le suivre, qu'il doit respecter ce qu'il a ordonné et ce qu'il a interdit, et qu'il doit s'accrocher à sa sunna, et qu'il ne doit pas s'y objecter par aucune parole, car autre que le messager sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire des erreurs, tandis que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a protégé, hein, l'a protégé Et il nous a ordonné de lui obéir et de le prendre comme exemple. Hein? Donc, ça c'est ce que implique le témoignage de Muhammad Rasulullah et sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit, ici maintenant pour expliquer cette citation là, il dit وَهَذَا هُوَ الشَّقُّ الثَّانِي لِلشَّهَادَةِ لأن شهادة أن لا إله إلا الله لا تكفي إلا مع شهادة أن محمدا رسول الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكفي إلا مع شهادة أن لا إله إلا الله فلا بد من الشهادتين. Donc le cheikh explique que ça c'est la deuxième partie du témoignage et que le fait de témoigner de la ilaha illallah c'est pas suffisant excepté si tu rajoute avec le témoignage de Muhammadan Rasulullah. Et le témoignage de Muhammad Rasulullah, c'est pas suffisant, excepté si tu as témoigné de la ilaha illallah. Donc ces deux témoignages-là sont reliés ensemble et c'est yani impossible de les séparer. D'accord? Donc un ne peut pas être valable sans l'autre. Et ça c'est important parce qu'il y a des gens, j'ai entendu déjà parmi les gens de Bid'ah qui disent non, moi je dis seulement la ilaha illallah, je dis pas Muhammad Rasulullah. Donc ça veut dire que leur témoignage il vaut rien. S'ils n'ont pas témoigné de Muhammad Rasulullah, c'est comme si leur témoignage il est nul, parce que en fait le témoignage de Muhammad Rasulullah c'est pour témoigner que hein, tu vas adorer Allah comme dans le premier témoignage tu dis la ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah. Mais la deuxième partie du témoignage c'est pour expliquer que la seule façon que Allah va accepter ton adoration c'est si elle est accomplie selon l'exemple qui a été ramené par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si ton adoration, elle n'est pas en accord avec la sunna hein, et la sharia que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ramené, alors dans ce cas-là, ton adoration, elle ne sera pas acceptée d'Allah, elle ne sera pas valable. Hein? Donc c'est une condition pour que ton témoignage soit valable, il faut que tu témoignes également du témoignage de la foi en le messager et du fait que tu le suis hein, et que tu respectes ce qu'il a ordonné et interdit et que tu ne t'objectes à rien de ce qu'il a enseigné et ordonné. Et le cheikh Al-Fawzan il explique justement par rapport à ça la takfi illa ma'a shahadati anna muhammadan rasulullah wa shahadatu anna muhammadan rasulullah la takfi إلا مع شهادة أن لا إله إلا الله فلا بد من الشهادتين. Donc il faut les deux témoignages ensemble. Il dit وكما أن لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان بل هي تتضمن المعنى والاعتقاد والعمل فكذلك شهادة أن محمدا رسول الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان بل هي تتضمن نطق اللسان واعتقاد القلب والعمل بمقتضى هذه الشهادة من الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر وترك ما نهى عنه وزجر وذلك حتى تصح شهادة أن محمدا رسول الله أما مجرد التلفظ بها من غير عمل بها فإنها لا تنفع صاحبها فالمشركون يشهدون أن محمدا فالمشركون يشهدون أنه رسول الله بقلوبهم كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وقال أبو طالب لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا ولولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا فهو يعترف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ولكن لم يتبعه من باب الحمية الجاهلية لدين المشركين فمجرد الاعتراف برسالته صلى الله عليه وسلم لا يكفي وفي هذا يقول الله عز وجل فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Donc le cheikh il explique que de la même manière que la ilaha illallah c'est pas juste une parole qu'on prononce avec la langue, elle implique beaucoup d'autres significations et des croyances et des actions. Eh bien, la même chose également pour le témoignage de Muhammad Rasulullah. Ce n'est pas juste une parole que tu prononces avec la langue et c'est fini, hein? Mais plutôt, ça implique que tu le dises, une parole que tu dis avec la langue et une croyance que tu dois avoir dans ton cœur et une action qui doit être en accord avec ce témoignage qui implique que tu dois suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam et que tu dois lui obéir dans ce qu'il a ordonné et que tu dois croire en ce qu'il a donné comme renseignement et information à propos d'Allah et de la religion et que tu dois délaisser ce qu'il a interdit et ce qu'il a réprimandé. Donc tout ça, c'est ce qui est impliqué dans le témoignage de Muhammad Rasulullah pour que ton témoignage soit valable. Toutefois, si tu ne te limites qu'à prononcer le témoignage de Muhammad Rasulullah, mais que tu ne fais pas les actions, hein, et que tu ne le mets pas en pratique, alors dans ce cas-là, ça ne te sera pas profitable. Hein. Et les mushrikoun eux-mêmes, ils témoignaient de la foi, hein, ou bien plutôt ils témoignaient que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était véridique dans leur cœur. Mais ils refusaient de le dire et ils refusaient de l'accepter. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait savoir qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, le verset 33 dans Surat Al-An'am, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Donc, qu'est-ce que ça signifie ce verset? Donc on a dit, c'est le verset 33 dans Surat Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset, nous savons qu'en vérité ce qu'ils disent te chagrine. Or vraiment, ils ne croient pas que tu es un menteur. Mais ce sont les versets d'Allah que les injustes renient. Donc ils savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un menteur et que ce qu'il dit c'est la vérité. Hein, ils savent qu'il est véridique parce que même avant l'islam, les Arabes avaient surnommé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Al-Amin. Pourquoi? Parce qu'il était toujours véridique. Et donc le shaykh il dit, donc il dit ici le shaykh, pour expliquer donc ce passage-là, il donne comme exemple la parole de Abu Talib. Et Abu Talib, c'est l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a un poème, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a un poème qui est connu par rapport aux paroles de Abu Talib qui disait, et je sais que la religion de Mohammed, c'est la meilleure des religions du monde. Et si ce n'était du blâme ou de la peur d'être insulté de mon peuple, tu m'aurais vu le dire ouvertement et clairement. لَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ لَوْلَ الْمَلَامَةِ. Si ce n'est pas la crainte du blâme, وَحَذَارُ مَسَبَّةٍ, et de me faire insulter par mon peuple pour avoir abandonné les croyances et les idoles de Quraysh, la wajadtani samhan bidhaka mubina. Donc le cheikh il dit, il reconnaît que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est le messager d'Allah, mais il refuse de le suivre par fierté pour la religion des mushrikines et de la jahiliya. Et donc le simple fait de reconnaître que Mohammed est un messager, ça, ce n'est pas suffisant. Hein? C'est comme par exemple des fois vous avez des orientalistes ou des auteurs qui parlent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur le plan de l'être humain, quand il glorifie le prophète en disant que c'était un grand homme, qu'il a fait des grandes choses, que c'était un stratège, et que c'était un... Donc tu vois des témoignages de ça, comme par exemple des paroles de Victor Hugo, des paroles de Montesquieu, ou je sais pas qui encore là, de ces auteurs là qui écrivaient des choses puis qui ont dit du bien du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et certains parmi les koufars aujourd'hui, quand ils font les dialogues de rapprochement avec les chrétiens, les musulmans et les juifs, et qui disent par exemple que certes Mohammed c'était un grand prophète, il a fait du bien, pourtant ils ne le suivent pas, hein? Donc le fait de dire qu'il est un prophète sans le suivre, ça ne compte pas, ça vaut rien, hein? C'est pas suffisant. Et une fois même j'ai rencontré des juifs, une fois j'ai raconté cette histoire plusieurs fois, j'ai rencontré des juifs à l'université Concordia, ils venaient à la Moussalla, et c'est des ultra orthodoxes, et eux ils viennent même participer aux manifestations pour la Palestine, et ils manifestent contre l'État d'Israël, en tout cas toutes sortes de trucs comme ça. Et quand je les ai rencontrés, ceux-là, ils étaient à l'extérieur de la Moussalla. Et quand je les ai invités, ben, après la prière, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ils ont dit, nous, on est venus pour vous supporter, les musulmans, parce qu'on est d'accord avec vous pour la Palestine. Et j'ai dit, mais dans ce cas-là, pourquoi vous ne venez pas faire la prière avec nous, hein? Pourquoi vous acceptez pas l'islam? Il a dit, ben oui, on accepte l'islam. J'ai dit, est-ce que vous dites, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah? Et il a dit, oui, oui. Et il a répété, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Alors j'ai dit, ben dans ce cas-là, il faut enlever vos vêtements juifs et puis il faut porter maintenant les vêtements de l'islam puis suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, non, ça c'est notre coutume, nous on reste comme ça. Donc on voit clairement que ces gens-là n'ont pas compris, ou bien ils ont fait semblant de ne pas comprendre que tu ne peux pas juste dire Mohammed Rasulullah comme ça, il faut qu'il y ait des actions qui suivent. Et le cheikh, il dit ensuite que juste de reconnaître que le messager est un prophète ou un messager, c'est pas suffisant. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement à propos de ça dans Sourate Al-A'raf, le verset 157, il clarifie qu'il faut justement qu'il y ait un suivi pour que le témoignage soit valable. Puisqu'il dit dans le verset, donc, que ceux qui croient en lui, c'est-à-dire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, c'est-à-dire sa sunna, alors ceux-là sont les gagnants, sont ceux qui ont le succès. Donc c'est pas juste suffisant de dire ça avec la bouche. Et il dit ensuite le cheikh, فَتُقَدَّمْ سُنَّتُهُ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ مَهْمَا كَانَ قَائِلُهُ فَلَا قَوْلَ لِأَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب فالذي يشهد أنه رسول الله ولكن لا يأخذ من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما يوافق هواه وأما ما لم يوافق هواه أما ما يوافق هواه ما يعني إلا ما يوافق هواه وأما ما لم يوافق هواه إما أن يفسره بغير تفسيره وإما أن يرده بالكلام في إسناده أو أنه من الأحاديث الآحاد إلى آخره فهذا لم يشهد أنه رسول الله. Donc le cheikh il dit ensuite que on a déjà expliqué que on doit pas on peut pas non plus s'objecter à quoi que ce soit hein, de ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a enseigné pour la parole de quiconque. Et le cheikh il dit on a expliqué donc que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna doit avoir précédence sur la parole de n'importe quelle autre personne, peu importe qui il est, hein, peu importe qui il est, que ce, même si c'est le plus grand des philosophes, le plus grand des penseurs, le plus grand des le plus grand des psychologues, le plus grand des médecins, le plus grand des penseurs, le plus grand des peu importe, même si c'est le plus grand des savants d'islam, même si c'est le plus grand imam, même si c'est le plus grand cheikh, hein, peu importe qui il est, si sa parole contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit toujours donner précédence à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas une parole de quiconque qui doit passer devant la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parmi les hommes. Et il dit que par rapport à ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans surat al-Hashr, le verset 7, ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en, et préservez-vous d'Allah, car certes Allah est dur en châtiment. Puis il dit donc, celui qui témoigne que Muhammad est le messager d'Allah, mais qui ne prend pas les hadiths du messager, hein, comme les Qur'aniyoun, hein, ou comme certains égarés, là, comme ceux qui, comme aujourd'hui, là, on entend des gens qui veulent faire l'islam de France, ils parlent de l'islam de France, ils rejettent la sunna. Ils disent, on veut faire un islam qui est en accord avec la France et les valeurs de la République, hein, comme Khalid bin Sheikh et d'autres également parmi cette catégorie d'individus hérétiques. Eh bien, subhanallah, ils rejettent la sunna, hein, donc ça c'est des gens, leur témoignage de Muhammad Rasulullah, qu'est-ce qu'il a comme valeur. Le Sheikh, il dit, s'il dit je prends pas les hadiths du messager d'Allah excepté ce qui est en accord avec ma passion, hein, ça c'est grave, mais si c'est en accord avec sa passion il le prend, ou bien il l'interprète d'une autre façon pour déformer son sens et l'interpréter selon ses désirs et sa passion, ou bien il le rejette en essayant de critiquer sa chaîne de transmission alors qu'il n'a pas de connaissances dans ce domaine et la chaîne de transmission elle est authentique. Ou bien il dit le hadith il est ahad, c'est-à-dire c'est des chaînes de hadith qui sont moins propagées ou moins répandues ou moins connues ou que y a moins de transmetteurs qui l'ont propagé ou il y a moins de narrateurs qui l'ont transmis. Donc, ils essaient d'utiliser ça comme un argument pour ne pas accepter le hadith, alors que le hadith est authentique. Et donc, le cheikh dit, celui qui agit de cette manière, il n'a pas témoigné réellement que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh dit ensuite, cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, لأن غيره, sallallahu alayhi wa sallam, يجوز عليه الخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله قد عصمه الله تعالى وأمرنا بطاعته والتأسي به. Donc les autres que le prophète صلى الله عليه وسلم, lui il peut faire des erreurs quand il parle, tandis que le prophète صلى الله عليه وسلم, lui il fait pas d'erreurs parce que Allah سبحانه وتعالى le protège de faire ce genre d'erreurs, et il nous a ordonné de lui obéir et de le prendre comme exemple. Et le Cheikh Al-Fawzan, il commente à propos de ça, et on va terminer avec ce dernier point. Il dit, الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ ولا يقول إلا حقا قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأما غيره من العلماء فهم محل اجتهاد يخطئون ويصيبون فيؤخذ من اجتهادهم وأقوالهم ما وافق الحق ويترك ما خالف الحق ولهذا لا يجب اتباع شخص بعينه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أما غيره فإنه يتبع فيما اتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتبع فيما خالفه فيه. وفي قول وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من اعتقد أن أحدا يجب اتباعه غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. يعني من اعتقد أن شخصا تجب طاعته وقبول أقواله غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد عن دين الإسلام، لأن هذا لا يكون إلا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، أما غيره فإنه يؤخذ من قوله ما وافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويترك ما خالف الرسول أو ما خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique que le messager صلى الله عليه وسلم il est infaillible, il peut pas faire d'erreur dans la religion. Il ne dit que la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 3 et 4 dans sourate An-Najm, il ne parle pas selon la passion, c'est seulement une révélation qui lui est révélée. Tandis que les autres, parmi les ulama, hein, leurs paroles sont basées sur des efforts, hein, sur l'ijtihad. Et ils peuvent avoir raison comme ils peuvent se tromper. Donc s'ils ont fait un ijtihad, hein, on prend dans leurs paroles ce qui est en accord avec la vérité. Et ce qui est en contradiction avec la vérité, on le laisse. Et c'est pour ça qu'il n'est pas obligatoire de suivre une personne, hein, en particulier dans la religion, excepté le messager sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que toute autre personne que le messager sallallahu alayhi wa sallam, si on le suit, on le suit uniquement quand il est en accord avec le messager ou il a suivi le messager. On n'a pas le droit de le suivre dans ce dans quoi il a contredit le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a dans ça un exemple de la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah lorsqu'il dit quiconque croit que il est obligatoire de suivre quelqu'un autre que le messager sallallahu alayhi wa sallam dans l'islam, alors il doit être appelé à se repentir. Et s'il refuse, alors il sera exécuté, hein, selon la loi de l'islam. Et il dit ensuite, le cheikh, pour expliquer cette citation, c'est-à-dire que quiconque croit qu'il est obligatoire de suivre une personne et d'accepter tout ce qu'il dit autre que le messager sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas-là, c'est un apostat qui a quitté la religion de l'islam, parce que il y a personne, hein, qui peut dire ça à propos de quelqu'un, excepté à propos du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, toute autre personne que lui, eh bien, il peut, on prend ce qu'il dit qui est en accord avec la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et on délaisse ce dans quoi il a contredit la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et à propos de ça ensuite, le cheikh cheikh Al-Fawzan il répond à une question qu'on lui a posée. La question c'est la suivante en note de bas de page: سُئِلَ شَيْخُنَا حَفِظَهُ اللَّهُ عَمَّنْ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَعْصُومٌ فِي مَا يُبَلِّغُهُ عَنْ رَبِّهِ وَلَيْسَ مَعْصُومًا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فأجاب جميع الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله عز وجل وهذا بإجماع المسلمين ومن اعتقد بأنهم غير معصومين فإنه كافر وكذلك معصومون من كبائر الذنوب لا تجوز عليهم كبائر الذنوب لأنها تجرح العدالة أما الصغائر فإنهم معصومون من الاستمرار عليها وقد يقعون في بعضها ولكن يتوبون إلى الله عز وجل فهم معصومون منها في النهاية فقد لا يكونون معصومين منها في البداية. وهذا هو التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو المتمشي مع الأدلة. انتهى كلامه رحمه الله. Donc la question qui a été posée au Cheikh Al-Fawzan ici, c'est à propos de la personne qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est infaillible, hein, ou est protégé dans qu'est-ce qu'il a transmis de son Seigneur de la religion. Mais il n'est pas infaillible dans ce qu'il transmet des choses autres que ça. Et le cheikh, il répond à propos de cette question que tous les messagers sont infaillibles dans ce qu'ils transmettent, dans ce qu'ils transmettent de la part d'Allah. Et ça, c'est selon le consensus des musulmans. Et quiconque croit qu'ils ne sont pas infaillibles, alors il est kafir. De même qu'ils sont infaillibles de commettre des grands péchés. Donc il n'est pas permis pour eux de commettre des grands péchés. Ils ne peuvent pas faire de grands péchés parce que cela attaque leur le principe de l'honnêteté. Al-adala. Toutefois, les petits péchés, c'est possible qu'ils se produisent de leur part, parce qu'ils sont uniquement protégés de persister dans le petit péché. Mais ils peuvent parfois tomber dans un petit péché. Toutefois, ils se repentent à Allah. Toutefois, ils se repentent tout de suite à Allah. Donc, ils sont protégés de rester dans le péché et de continuer à le faire et de terminer dans le péché. Toutefois, c'est possible qu'ils ne soient pas protégés de tomber dans un petit péché au début. Mais par la suite, ils s'en repentent et ça fait partie de leur mérite. Puisque la repentance est une des plus grandes formes d'adoration d'Allah. Et Allah aime les repentants. Donc c'est ça le détail qui a été rapporté ou mentionné par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans son Majmu' Fatawa à ce sujet-là. Et c'est ce qui est en accord avec les preuves sur la question. Et ça, c'est la fin donc de la citation. On va s'arrêter ici donc pour aujourd'hui. Et on continuera la semaine prochaine, inshallah, la suite de cette explication, bi'ibnillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.